respect humain, donc avoir peur de confesser sa foi, manque de confiance en Dieu aussi, indifférence à l'égard de Dieu. On croit en lui, mais on se moque un peu de sa présence ou de ce qu'il peut faire. Manque de soumission à la volonté de Dieu aussi, révolte personnelle. Ou alors pratique superstitieuse. Le spiritisme, c'est-à-dire rendre un certain culte aux anges. Alors que les anges sont serviteurs de Dieu. On peut demander à un ange d'intervenir et de recevoir des missions de Dieu pour nous. Mais on ne doit pas dire à l'ange, tu es ma providence. Plusieurs fois dans la Sainte Écriture, quand un homme s'était prosterné devant un ange, l'ange lui a dit, relève-toi. Et même dans l'Apocalypse de Saint Jean, à un moment, Saint Jean, bon, il faut dire que l'ange qui lui montrait telle vision ne devait pas être le dernier des petits anges gentils, mignons. Hein, il devait être assez impressionnant. Et Saint Jean, à un moment donné, se prosterne devant lui. Et là, l'ange, immédiatement, et je pense que Jean s'est relevé assez vite, hein, parce qu'il ne devait pas être un grand rigolo, l'ange en question, surtout, relève-toi, hein, je suis un serviteur comme toi, relève-toi, tout de suite. Et nous servons notre Seigneur et tout ça. Donc, voilà, c'est. Et donc. Il faut faire attention, les pratiques superstitieuses, d'être sûr de son salut. Vous avez les oraisons de Sainte Brigitte. J'ose vous dire que faites attention, vous n'êtes pas certain de vous sauver, même si pendant 10 ans vous dites les oraisons de Sainte Brigitte. C'est par rapport à votre comment dire, amour de Dieu que vous êtes sauvé ou pas sauvé. Hein. C'est pas parce que vous avez récité les oraisons de Sainte Brigitte. C'est sûr que les oraisons de Sainte Brigitte vont vous aider à vous sauver parce qu'elles sont très riches spirituellement et très belles. Mais c'est pas parce que vous avez récité telle prière que vous serez sauvé. Vous serez sauvé si vous aimez Dieu et votre prochain. C'est, vous voyez? Bien sûr, le fait de prier le chapelet, tout ça nous aide à nous sauver. Mais c'est pas déterminant non plus, hein. Le spiritisme, c'est d'invoquer les démons, d'invoquer les morts. Vous pouvez prier les morts et vos défunts pour qu'ils prient pour vous, pour qu'ils demandent des grâces spirituelles pour vous. Mais pas ni pour gagner au loto, ni pour avoir même un appartement ou un travail. Alors vous dites, ah bon, non? Précisez, oui. Je vais prier ma grand-mère pour avoir un travail. En disant, grand-mère, demande à Jésus que j'ai un travail parce que j'en peux plus, ça fait 5 ans que je suis au chômage, je n'en peux plus, je vais désespérer. Ah, là oui, vous pouvez demander à votre grand-mère de prier spécialement pour que vous trouviez un travail. Mais si à tout propos, vous demandez des grâces, des aides matérielles à Dieu, aux saints, aux défunts, ça, c'est de la superstition. Il faut qu'il y ait une cause proportionnée pour que vous demandiez de l'argent, ou un appartement, ou la santé à Dieu. Parce que c'est toujours conditionné à votre salut. Et vous avez un cancer, on vous apprend que vous avez un cancer, vous vous dites, oh, j'ai quand même 62 ans, c'est un peu dommage. Seigneur, j'aurais voulu vivre un peu plus longtemps, j'ai quand même 4 enfants, hein, de 17 à 5 ans. Ça va être un peu dommage si je suis plus là, vous voyez. Et donc, et vous négociez avec le bon Dieu votre guérison. Vous allez à Lourdes et tout ça. Enfin voilà. Mais ça, c'est légitime. Mais vous avez 92 ans, dit Madame, vous avez un cancer, comment dire, de l'estomac, tout ça. Oh, mais quel scandale! C'est impossible! Comment Dieu peut-il me tuer comme ça maintenant, à la fleur de l'âge? Vous voyez, manque de soumission à la volonté de Dieu. Pratique superstitieuse, spiritisme, critique de la religion, adhésion à des mouvements incompatibles avec la foi catholique, négligence dans la formation chrétienne. Deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Emploi inutile du nom de Dieu, blasphème, c'est insulte contre Dieu, imprécation, c'est-à-dire qu'on on prend Dieu à témoin, mais avec dureté, contre lui ou contre quelqu'un aussi. Que Dieu t'écrase, que Dieu te pulvérise, que tu crèves, qu'il te... Ben, allons. Dis donc, ça, c'est un chrétien. Non, imprécation. Oui, mais les prophètes étaient bien énervés à ce moment-là et ils avaient en face d'eux des gens qui méritaient éventuellement une malédiction. Si, si. Ah oui, oui, oui. Des tueurs d'enfants, comme les... Quand le prophète Élie pulvérise 450 prêtres de Baal, hein, eux, ils jetaient des bébés dans des fours, dans des statues de bronze creuses, incandescentes. Hein, donc, ils méritaient... Voilà, il méritait une petite punition, une gifle. Hein, mais Élie, lui, c'était plutôt au glaive, et clang, hop, et jeté du haut de la falaise. Voilà. C'est un peu brutal, c'est vrai. Enfin, c'était 450 assassins. Oui. Donc, on ne les a pas trop regrettés. Il n'y a pas eu beaucoup de... Si, Jézabel était vraiment pas contente, parce qu'elle était, de la religion de Baal. Et donc, elle a voulu faire mourir Élie. Comment ? Oui, mais il y avait la miséricorde, si vous voulez. Le vrai Dieu, dans l'Ancien Testament, instillait déjà sa miséricorde. En Jérémie, il dit « J'ai un serviteur qui va souffrir et qui va porter les péchés du peuple. » Mais Élie, si vous voulez, lui, il était en situation d'adversité dure avec les prêtres de Baal. Donc il va être miséricordieux avec d'autres personnes, Élie. Oui. D'ailleurs, la tradition dit qu'il viendra à la fin des temps pour convertir juifs et musulmans, ceux qui sont de tradition biblique. Oui. Donc il viendra pour convertir, pas pour punir. Oui. Imprécation, juron. Ah, je jure que je n'ai pas fait ça. Non. Je promets, j'assure que je n'avais pas fait ça. Mais jurer, normalement, le mot jurer, c'est prendre Dieu à témoin. Hein? Donc un enfant qui dit, je le jure. Non, je l'assure. Ah mais c'est compliqué ça, c'est un mot d'adulte. Oui, mais c'est comme ça. Je le promets. À la limite, on peut promettre. Serment faux ou inutile. Hein? Je promets sur la tête de ma mère que je n'ai pas volé ce carambar. Mais vous avez récemment une cour de cassation qui a permis. C'est la cour de cassation de France. Il y avait une personne qui à la RATP, il y avait un serment. On leur demandait un serment pour faire partie de la sécurité, du service de sécurité à la RATP. Et bien, parce qu'elle était catholique, elle a refusé de faire ce serment. Bon, si vous voulez, c'est grave aussi d'assurer la sécurité, donc ça peut être proportionné. Un catholique peut faire un serment au tribunal pour dire la vérité. Enfin, elle n'a pas voulu faire ce serment. Elle a été licenciée par la RATP et c'est allé jusqu'à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a dit, eh bien, on doit respecter ses convictions religieuses. Du moment qu'elle fait son métier correctement, elle n'a pas à jurer. Eh ben, dis donc. Irrespect à l'égard des personnes et des choses consacrées à Dieu. Si vous manquez de respect contre un prêtre, contre une religieuse, un religieux, un évêque, un pape, sans raison... et de manière disproportionnée. Par exemple, vous pouvez dire que c'était Eugène VI, je ne sais plus, ou Innocent IV, je ne sais plus. Enfin, je calomnie des pauvres papes qui étaient bien. Enfin, il y avait un pape qui a fait torturer et tuer des ennemis politiques. Et vous pouvez dire, c'est excessif, très Saint-Père. Voilà. Bon. Souhait néfaste à l'égard de soi-même ou d'autrui. Un souhait, c'est-à-dire maudire quelqu'un. Oui. Non-accomplissement des vœux. Ah, vous voyez, je vous avais dit que Dom Monléon était devenu prêtre bénédictin parce qu'il avait fait le vœu dans un cratère de 1418 d'entrer au monastère. Et son curé ne l'a pas libéré de son vœu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Eh bien, vous ne pouvez plus faire partie du parti les Républicains. Ah oui, pardon. Ah oui, si vous êtes pour le travail le dimanche, vous êtes un pécheur. Oui, mais enfin, vous allez au restaurant le dimanche à midi, monsieur l'abbé. Oui, mais enfin, c'est une vieille coutume. Ceux qui assurent la nourriture peuvent éventuellement travailler le dimanche. Et je vous assurais qu'il y a certains pays catholiques, hein, où même les restaurants sont pas ouverts le dimanche. En Irlande, je suis sûr que les restaurants n'étaient pas ouverts le dimanche. Tout le monde mangeait en famille le dimanche midi. Donc nous sommes d'affreux libéraux et à faire travailler des gens le dimanche. Quelle hypocrisie, vous voyez. Vous avez le serveur qui est là et qui dit, dites-moi mon père, hein, vous me dites de pas travailler le dimanche et puis vous venez de manger dans mon restaurant. Vous irez en enfer. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Sanctifier le jour du Seigneur, c'est prier et se reposer. Pas seulement prier. Ah oui, mais moi je fais un travail non servile. Hein, je suis avocat et donc je peux travailler des heures et des heures le dimanche. Ouais, ben il faut voir. Hein. Omission volontaire ou sans motif de l'assistance à la messe dominicale. Ben oui, mais quand il n'y avait pas la messe, comment on faisait pour sanctifier le Shabbat? Eh bien, on priait et on ne travaillait pas. Et pourquoi vous avez rajouté la messe? Eh bien, parce que c'est la prière essentielle. Voilà. Donc, la messe est un signe de sanctification du jour du Seigneur. Mais oui, mais si il n'y a pas de messe, ou si je suis au fond de mon lit, eh bien, on est excusé de l'assistance à la messe. Mais on doit quand même prier plus longtemps que les autres jours. Lire la messe dans le missel, ou si on n'a pas de missel, prier plus longtemps. Penser à Dieu, regarder un crucifix, regarder une image du Christ, de la Vierge, visiter une église, même s'il n'y a pas de messe.
Ou sur Internet,
Ou aller sur
maintenant. Sur
Internet
Internet,
et autres.
les messes, le matin.
Au Vietnam, il y a un coutume de faire un chapelet.
Oui, quand on peut pas avoir de messe. Oui. Oui, mais si on dit le chapelet tous les jours, en conscience, le dimanche, on doit faire plus. Faire une lecture spirituelle, lire l'évangile, ou dire trois chapelets, un rosaire. Omission volontaire et sans motif de l'assistance à la messe dominicale ou des fêtes d'obligation. Retard volontaire ou dissipation durant les messes. Travail fait ou ordonné sans nécessité ou permission, recherche de distraction contraire à la sanctification du dimanche. Tu honoreras ton père et ta mère. Manque d'amour, d'affection, de respect, d'obéissance, d'assistance à l'égard des parents durant leur vie et de prière à leur intention après leur mort. Vous avez eu de très mauvais parents qui vous ont frappé, qui vous ont mis dans une cave. Qui ont été en prison parce qu'ils ont été horribles avec vous. Ben oui, mais ils vous ont transmis la vie et vous allez prier pour leur conversion, s'ils restent dans cet état de haine et de méchanceté, et vous allez prier pour leur salut. Et quand ils seront morts, vous allez prier pour qu'ils se soient sauvés, avant même qu'ils soient sortis du purgatoire, parce que s'ils vous ont, ils ont manqué de vous tuer, peut-être que ils sont. Oui, mais s'ils sont fous, ils sont pas responsables. Enfin, oui, mais s'ils faisaient ça de manière très cynique, en se cachant, voilà, enfin voilà. Ils sont des pécheurs, des très mauvais parents. Eh bien, vous avez quand même l'obligation de les honorer, mais pas les honorer en disant, ah, oh, mes parents sont vraiment merveilleux, ils m'ont permis de me reposer dans une cave pendant 10 ans, voilà, je suis pas allé à l'école, j'ai pas travaillé, tout ça, c'était bien. Et puis, ils me donnaient la nourriture sous la porte, c'était vraiment fantastique. Voilà. Non, on vous dit, honorer, c'est vouloir leur salut. Et c'est pas indispensable. Voyez. C'est dur parfois, hein. Vous avez des parents qui ont été très méchants, hein. Et sans vous mettre dans la cave, des parents qui vous ont humilié, qui ont préféré un des enfants. Enfin, parfois, c'est vous qui avez l'impression hein, qu'ils ont préféré un ou l'autre. Hein. Voilà. Peine causée, souhait de mal, dispute d'intérêt en famille, manque de déférence et de soumission à l'égard des supérieurs. Ah ? Oui, les supérieurs, l'instituteur, l'institutrice, le professeur, ont un rôle d'éducation qui est radicalement celui des parents. Donc c'est par délégation qu'un professeur, un enseignant doit être respecté comme un père ou une mère, qui en fait vous apprend le vrai et le bien. C'est dans le quatrième commandement, le respect de l'institutrice. Oui. Pour les parents à l'égard de leurs enfants, négligence dans leur éducation chrétienne ou leur pratique religieuse, mauvais exemple donné, manque de surveillance, de soins, de disponibilité, de conseils ou de correction, dureté, injustice, sévérité excessive ou manque de sévérité aussi. Mais ça serait plutôt, à mon avis, dans le cinquième commandement que ça devrait être placé. Le mal qu'on fait à ses enfants n'est pas dans le quatrième commandement. Le quatrième commandement, c'est « Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longuement ». C'est le seul commandement où il y a une récompense temporelle. Vous allez me dire, il y a des enfants qui ont été très très gentils avec leurs parents et qui sont morts d'un cancer à 30 ans. Eh bien, c'est une exception, et puis Dieu, il fait ce qu'il veut, et l'important, c'est de sauver son âme, et il voulait qu'on offre des mérites particuliers à accepter la mort, et c'est très précieux d'aimer Dieu et de lui faire confiance. On n'est jamais assez persuadé que Dieu nous aime. Surtout lorsqu'il nous arrive des malheurs. Et pourtant, Dieu nous aime. Et le vrai malheur, c'est de faire du mal. Ce n'est pas d'en subir. Dire, ben alors, on est en prison, on a un cancer, on est calomnié, tout ça, nos parents nous détestent. Eh bien, vive Dieu. J'aime mes ennemis, je prie pour eux. Et voilà. Mais c'est affreux cette religion. Mais oui, mais c'est l'amour. C'est le véritable amour. Et alors, eh bien, voyez, regardez. Tu ne tueras pas. Meurtre, tentative de suicide contre soi-même, euthanasie, avortement, stérilisation, c'est-à-dire tuer quelqu'un ou le blesser corporellement. Quand vous vous mutilez, vous allez contre le cinquième commandement. Ça ne va pas jusqu'à la mort, mais c'est une blessure. Souhait de mort ou de malheur à l'égard d'autrui, vengeance, coup, blessure, tort, causé à la santé, drogue, alcool, mutilation. Donc, le prêtre qui a fait ça étant fumeur, il a omis de mettre la cigarette. Or, la cigarette est mauvaise pour la santé. « Oh, mais je fume une cigarette par jour. » Oui, mais c'est pas vraiment fumer, alors. Une par jour, je pense pas qu'il y ait une dose de combustion dans les poumons qui soit très excessive. C'est plus, si vous voulez, à ce moment-là, si vous aimez le tabac ou autre. On parle de fumer, fumer. Oui. Insultes, injures. Ah, les insultes. Oui, parce que les insultes sont une sorte de blessure spirituelle. Vous voulez faire du mal. Oui, mais enfin, on ne le tue pas. On ne le gifle pas. Oui, mais ce sont des gifles morales. Ah, ça fait partie du cinquième commandement.
Ça fait partie du cinquième commandement.
Oui. Oui, mais c'est une façon de parler. Oui, 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 mais enfin... Insultes, injures, mépris, faux rapports, haine, violence, refus de pardonner, vengeance. Faux rapports, hein, c'est la calomnie. Indifférence à la peine d'autrui, scandale par mauvais exemple, par conseil ou approbation silencieuse. Vous acceptez le mal qui se fait devant vous. Vous péchez contre le cinquième commandement. Vous encouragez le mal. Voyez. Vous avez une institutrice qui reçoit des puzzles à distribuer à des enfants de maternelle. Vous avez la famille envoyer une famille avec deux enfants, comment dire, et puis vous avez deux femmes qui se tiennent par la main, c'était puzzle. Famille homoparentale, aux enfants de maternelle. Hein. Eh bien, l'institutrice, ça a été envoyé non seulement aux écoles publiques, mais aussi aux écoles privées sous contrat. Eh bien, l'institutrice, elle doit prendre des puzzles et les mettre à la poubelle, quoi qu'il lui en coûte. Voilà. Elle peut le faire tout discrètement, hein, si c'est un envoi par la poste et tout. Poubelle. Ça, je peux ? Oui. Je finirai par aller en tôle. Voilà. Sixième et neuvième commandement, hein, tout ce qui est toujours le plus croustillant, n'est-ce pas? Eh bien, pensée, désir impur provoqué en soi ou chez les autres, conversation, chanson, lecture, hein, pauvre corps de garde et pauvres militaires qui s'ennuient comme des rats morts et qui finissent par avoir les plaisanteries les plus faciles, hein, sous la ceinture en général. C'est tellement drôle. Et d'ailleurs, en ce moment, les humoristes, voilà. Ils n'arrivent pas à se renouveler, alors pipi caca, hein, c'est tout. Hein, ça vole pas haut, hein, c'est facile et voilà. Alors spectacles immoraux, TV, internet, mais là comme jamais on a eu la possibilité. Hein. Avant, vous voyez, vous aviez les gens, ils longeaient un mur, passe muraille, ils arrivaient près du kiosque. C'était en haut, à l'intérieur. Et il fallait avoir la barbe, hein, et pas être trop jeune. Monsieur, je voudrais... voilà. Où vous aviez des sex shops, et ben vous aviez des rideaux. Hein. Tiens, c'est un drôle de magasin, il n'y a pas de vitrine, pas de devanture, rien. Ben non. Mais actuellement, si vous allez du côté de Moulin Rouge, ben là, maintenant, ils ont des vitrines, vous voyez tout. Et c'est franchement dégueulasse. Eh bien, actuellement, bah, vous n'avez pas besoin d'y aller. Hein. Je ne sais pas comment les sexes, les cinémas, tout ça, je crois qu'ils n'existent presque plus. Sur Internet, en trois clics, vous avez un film pornographique. Donc, flirt. Les flirts avancés, si vous voulez. Vous couchez avec l'ami ou autre. Familiarité coupable. Vous voyez ? Danse lascive, il faut vous assurer, on a quoi de sortir avec le 5 curé d'Ars, hein, sur la danse. Hein. Le 5 curé d'Ars tolérait, à mon avis, à peine les danses folkloriques et encore avec un mouchoir. Vous voyez ? En général, c'était danse folklorique entre hommes ou entre femmes, et de manière virile. Hein. Vous voyez ? Ou alors, ou la bourrée auvergnate, mais dans les danses juives. Vous voyez, on ne se touche pas la main, on a un mouchoir. Vous voyez, enfin, c'est très pudique. Danse lascive, toucher indécent, acte contraire à la chasteté, seul ou avec d'autres, masturbation, c'est-à-dire obtenir le plaisir sexuel tout seul, relation charnelle en dehors du mariage. Voilà, relation charnelle en dehors du mariage. Homosexualité, parce que c'est contraire à l'acte sexuel naturel, tenue ou attitude provocante, on vous demande de pas avoir des plumes de paon et comment dire, dans les gay pride, c'est vraiment assez impressionnant, mais même en dehors, mais même hétérosexuel ou homosexuel, parce qu'actuellement on nous bassine avec l'homosexualité, mais actuellement 90% ou 95% de l'immoralité sexuelle est hétérosexuelle actuellement. Donc il faut... C'est contraire à la paix humaine, en fait, aussi. Et alors les femmes, là, les féministes, alors là, vous avez actuellement... il existe encore des féministes, enfin, je comprends pas, parce que à Paris, vous avez régulièrement des affiches dans tous les sens, où les femmes sont vraiment des pauvres objets. Hein. Les hommes aussi, mais un peu moins. Quoi. Ils savent que ça rapporte moins. C'est plutôt les femmes. Voilà. pour les fiancés, légèreté, tendresse excessive, sensuelle, relation prématrimoniale, cohabitation. Pour les époux, atteinte coupable à la fécondité du mariage, contraception permanente ou temporaire. Donc ça doit être uniquement les méthodes naturelles par rapport aux périodes de fécondité, par rapport à la méthode Billings. Alors la méthode Billings, c'est de savoir à quel moment vous êtes vraiment féconde, tout ça. Enfin, je vous épargne les détails, mais c'est, si vous voulez, pour des personnes très inquiètes, du moment que c'est que on accepte la possibilité que l'enfant vienne, il n'y a pas une mentalité contraceptive authentique. Mais ça peut terminer en mentalité contraceptive. On a peur qu'un enfant vienne, quoi. On va mourir de faim. Et on ne sera plus à Paris. On n'aura plus un appartement à Paris. La mort sociale. Et le quatrième enfant m'a tué. Ah bon? Bah, au 19e, c'était le 9e qui tuait en général. Ah oui, mais le quatrième, ça, on a fait des pieds et des mains pour pas en avoir. C'est la divine surprise, hein. On a 15, 10 et 7 ans, mais là, bang! La petite est arrivée. Ouais. Elle a un mois, mais c'était vraiment pas prévu. Ben oui. Mais tu es là? Ah non, c'est pas ce qu'on veut dire. Ben oui, mais c'est. Vraiment, c'est un. Mais vous n'avez pas d'enfant, alors pourquoi vous nous embêtez avec tout ça? Eh bien, justement, quand un prêtre prend son appartement de fonction et son petit internet et organise sa petite vie, hein, eh bien, attention à lui. Hein. Ouais, je fais peur comme ça aux jeunes prêtres, hein, je dis, faites attention, quand vous deviendrez justement des fonctionnaires et autres, vous n'êtes même pas sûr de votre salut. Ben oui, c'est atroce de dire aux autres de faire des efforts, de vivre dans la providence divine et puis de vivre comme un pacha. Sur les frontons des cathédrales, vous voyez des évêques et des prêtres en enfer. Hein. Et donc, on n'a pas eu besoin de Luther pour fustiger les évêques à grand train, avec une bague à chaque doigt et menant grand train, hein. Déjà, les prédicateurs de l'époque leur prophétisaient, enfin leur annonçaient qu'ils allaient peut-être se damner. Vous voyez, la théologie catholique est très logique. Hein. Et oui, la morale. Atteinte coupable à la fécondité, limitation d'usage du mariage au jour infécond sans cause sérieuse, bam. Adultère, pensée même, désir, action. Liaison, divorce. Alors le divorce, vous pouvez le regretter. Quelqu'un qui a divorcé, qui s'est séparé, peut s'en confesser et communier à nouveau. Enfin, c'est un péché d'avoir divorcé, sauf si vous êtes vraiment totalement innocent, abandonné. Mais à vous aussi de savoir quelle est votre part de responsabilité parfois. Enfin, on fera une séance sur le mariage et sur le couple et on pourra développer tout ça. Remariage civil, parce que c'est du concubinage de toute façon. Refus injuste du droit du conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est de refuser l'acte sexuel dans le mariage. C'est un péché, figurez-vous. Alors sauf si vous êtes malade et si vous avez vraiment, vraiment une céphalée, des maux de tête épouvantables ou que vous avez des souffrances physiques, vous pouvez dire à votre époux. Parce que c'est plutôt dans ce sens-là, en général, d'après ce que les humoristes nous disent tous les jours. Mais ça peut être dans le sens inverse aussi. Vous avez des maris, qui sont pas sensuels. Et donc la femme est là et n'ose pas, par pudeur féminine, mon cher époux, quand allez-vous m'honorer? Vous voyez, figurez, on en rit, mais quand les gens le vivent, ils y rient pas du tout. C'est vraiment douloureux. Et c'est les prêtres qui vont... Et vous savez, les curés de campagne étaient bien crus, hein, sur ces questions. Hein. Ils étaient bien nets, hein, avec les gens. Hein. Ils n'étaient pas pudiques du tout. Hein. Ils avaient la vraie pudeur. Et sinon, quand il fallait parler des choses, ils en parlaient. Septième et dixième commandement, tu ne voleras pas où tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui, hein, c'est vol. Quoi? Qu'est-ce que j'ai volé? Combien? Vous voyez? J'ai volé un stylo. Ah oui? Et un stylo, un Mont Blanc ou un Bic? Vous voyez? Combien? Mont Blanc, c'est déjà matière grave, hein, à partir de 300 francs, 200 francs, donc maintenant 30, 45 euros, c'est une matière grave. Ah, je peux voler des bics alors? Oui, mais si vous en volez toutes les semaines, à la fin, bon. Combien? Circonstances. J'avais vraiment besoin d'écrire. Oui, mais enfin, un Mont Blanc. Hein. Recel. Objet trouvé ou emprunté et non rendu. Alors là, vous... Moi, je récupère en général les gants de motocyclistes sur les avenues ou dans les rues. Alors, je vérifie qu'ils soient bien aplatis, en général. Quand ils viennent de tomber, j'ai un petit scrupule. Peut-être qu'il va faire un tour pour voir où il est tombé. Enfin, si vraiment il est abandonné, hein, je le passe à la machine et ça me fait un gant pour faire du Vélib. Bon, c'est un peu chiffonnier, j'en conviens. Objet trouvé ou emprunté et non rendu. Vous avez un distributeur automatique et vous avez une pièce. Vous avez des boissons ou des machins et vous trouvez une pièce. Alors vous allez rameuter toute l'entreprise. Mais qui a laissé la pièce? Je ne veux surtout pas receler cet objet et le voler. Et si c'est la personne qui vient de se servir et qui s'en va et que vous voyez la pièce, je dis, madame, vous avez oublié de prendre la monnaie. Par contre, si consciencieusement vous la voyez s'éloigner et que vous récupérez la monnaie, vous l'avez volée. Eh oui, c'est un vol. Alors ça, c'est les remords de conscience, c'est très drôle. Dommage injuste causé au prochain dans ses biens. Le vol, c'est aussi détérioré. Voyez. Fraude, manœuvre déloyale dans le travail, les affaires, le commerce, les contrats. Vous remarquerez qu'il ne parle pas du fisc. On ne sait pas trop. Pot de vin, coopération à des injustices, recel d'objets volés, négligence de le paiement des dettes, mais pas fiscale apparemment, salaire insuffisant, ça peut être très grave. Ça fait partie des péchés qui crient vengeance devant le trône de Dieu, de ne pas donner le salaire dû. Exploitation des faibles, dommage au bien collectif, désir de vol ou d'injustice, non réparation de dommages causés, non restitution, gaspillage ou travail bâclé. Vous volez votre employeur lorsque vous ne travaillez pas, comme vous devriez travailler. Et là, c'est vraiment impalpable, vous voyez. C'est du vol. Vous recevez un salaire, mais vous n'avez pas fait le travail entièrement pour le salaire que vous avez reçu. Vous êtes un voleur. Voilà. Septième commandement. Et pour terminer, huitième commandement, tu ne mentiras pas. Mensonge, avec ou sans préjudice pour autrui. On ne doit pas mentir, même pour rire. C'est ce qu'on appelle les mensonges joyeux. Oh ben la vie, elle n'est pas drôle. Eh oui. Même s'il n'y a pas de préjudice. Vous dites à quelqu'un, mais tu sais, j'ai remporté, dans ma jeunesse, je faisais du karting et je remportais presque de tout le temps les prix. Parce que je conduis bien, tout ça. Ah bon, voilà. Ça ne cause aucun préjudice à la personne qui vous entend. Vous, ça vous fait mousser. Vous dites, j'ai fait du karting dans ma jeunesse et j'arrivais premier. Ben oui, mais c'est un péché. Alors vous avez dit, c'est un péché d'orgueil. Mais c'est aussi un péché de mensonge. L'intelligence humaine n'est pas faite pour dire des choses fausses. Mais si vous voulez plaisanter, vous dites, vous êtes connu pour être un grand plaisantin et dire des choses absurdes. Vous dites, ah, derrière toi, il y a un immense crocodile qui va te manger. La personne, elle ne vous croit pas. Vous voyez? Donc ce n'est pas un mensonge. Le mensonge, c'est une chose fausse, crédible. Ah, vous êtes jésuite un peu? Non, c'est la vérité. On ne ment pas lorsqu'on dit qu'il y a un crocodile de 15 mètres de long qui est entré dans le sang de bergère, là, à l'instant. Non. Et pourtant, on raconte cela de saint Thomas d'Aquin. Il paraît qu'il était une âme tellement pure et tellement limpide que des étudiants en théologie, lorsqu'il était à Paris, je crois, vont à la fenêtre d'une salle où ils étaient et ils disent « Un âne volant, un âne qui a des ailes, un âne qui est en train de s'envoler avec des ailes !» Eh bien, saint Thomas est allé à la fenêtre en y croyant. Alors, est-ce que c'est une histoire vraie? Je ne sais pas.
Il a dit « Je préfère croire... »
Oui, oui, mais attendez, est-ce que c'est une histoire vraie? Parce que, vous voyez, c'est... Ça... Bon, en tout cas, il va à la fenêtre et il ne voit rien. Et les autres rigolent. Ah, il a cru qu'il y avait un âne volant. Et là, saint Thomas leur dit « Il eût mieux valu qu'un âne volât plutôt qu'un moine menti. » C'est beau, hein, le subjonctif. Et les autres?
C'était une vache volante.
Oui. Mensonge, avec ou sans préjudice pour autrui, médisance ou calomnie. Médisance, c'est un mal vrai. Voyez, monsieur le directeur des ressources humaines, mon collègue est alcoolique. Eh bien, vous faites un péché mortel, même si c'est vrai. Et si c'est faux, vous faites un péché mortel plus grave. Parce que ça dépend de ce que vous révélez. Par contre, je vous ai dit, la dernière fois, vous êtes conducteur de bus scolaire, et vous avez un confrère qui est alcoolique, vous devez aller voir votre supérieur pour lui dire que votre confrère est alcoolique. Et là, vous ne péchez pas. Et ah oui, mais vous le dénoncez, tout ça. Oui, mais vous sauvez la vie des enfants. Oui. Eh bien, il faut que ça soit vraiment drôle et que ça soit la limite de la vérité humaine. Qu'on puisse se douter que c'est faux. Vous voyez ? Mais en soi, les caméras cachées, tout ça, c'est contraire à la nature humaine. Ah, vous êtes vraiment un intégriste.
Oui.
Médisance ou calomnie, faites ou approuvez. Approuvez, c'est-à-dire que vous êtes là, c'est pas vous qui mentez, mais les autres... Vous dites, vous êtes d'accord pour... Faux témoignage en justice, ça c'est quand même grave. Accusation injuste, jugement téméraire aussi. Vous n'avez pas les éléments pour estimer d'un fait et vous allez trop vite. C'est toi qui as caché les clés, c'est pas possible. Tu les as cachées ou tu les as perdues, comme d'habitude. Hein Ouais. Bon. Alors, c'est qui les avait? C'est, hein? Non. Rapport injuste, nuisible, violation du secret, confié ou professionnel, des correspondances. C'est, tu ne mentiras pas, c'est, tu ne dévoileras pas aussi, c'est de l'ordre de la parole révélée, hein, le mensonge. Bon. À mon avis, la violation du secret, c'est plutôt le cinquième commandement, pour moi. Dissimulation, hypocrisie, par contre ça c'est le mensonge, tricherie, promesse non tenue, refus de rectifier la vérité aussi. Et pour terminer, tu sanctifieras les fêtes d'obligation. En France, c'est Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Tu assisteras à la messe les dimanches et fêtes d'obligation. Tu te confesseras au moins une fois l'an. Tu communieras chaque année au temps pascal. Donc vous n'êtes pas obligé de communier. Par contre, vous êtes obligé de vous mettre en état de communier du mercredi des cendres à l'Ascension. Enfin, parfois, le temps pascal est allongé, hein. C'était 15 jours avant Pâques, 15 jours après Pâques. Et puis c'est devenu presque un mois avant Pâques, un mois après Pâques. Enfin, voilà. Tu jeûneras les jours fixés par l'Église, mercredi des cendres et vendredi saint seulement. Tu ne mangeras pas de viande les jours fixés par l'Église, les jours de jeûne et les vendredis de carême, sous peine de péché véniel si vous ne remplacez pas par une autre pénitence. Si vous êtes fumeur et si vous ne fumez pas un vendredi de carême, en soi, vous pouvez prendre un beefsteak. Bon. Pour les autres vendredis de l'année, cette abstinence peut être remplacée par une autre forme de pénitence qu'il faut alors accomplir sous peine de péché véniel. Mais là, même un vendredi de carême, on peut substituer. Là, ils sont un peu exigeants. Là. Hein? Voilà. Ensuite, eh bien, ça sera la morale générale, hein, quand on parlera de l'orgueil, de l'avarice, de la luxure, de l'envie, de la gourmandise, la colère, la paresse. Vous voyez, on verra plus tard ce genre de choses. Par rapport à la morale, la prochaine fois, on reprendra un peu l'évangile pour qu'on reprenne le temps de, si vous voulez, la semaine sainte et le jeudi saint, le vendredi saint et Pâques pour coller au temps liturgique.